Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors votre sujet ce matin, les MOOC pour Massive Open Online Courses. On en attendait des merveilles. Que peut-on dire des premiers résultats, Brice ?
L'économie numérique bouleverse tous les secteurs économiques l'un après l'autre. Certains, comme le commerce ou le tourisme, davantage que d'autres, comme les services à la personne. À quand une rupture technologique dans l'enseignement supérieur ? Demandait l'an dernier Kenneth Rogoff, professeur à Harvard. L'enseignement supérieur est désormais un secteur économique stratégique. Les meilleures universités du monde se battent pour attirer les étudiants. Aux États-Unis, qui détiennent les universités les plus réputées du monde, ce secteur représente un chiffre d'affaires annuel de 500 milliards de dollars, soit 2,5% du PIB américain. Alors pourquoi ce pays, tellement à l'affût des nouvelles innovations technologiques, persiste-t-il à offrir aux étudiants des cours magistraux ennuyeux, alors que l'enseignement secondaire, lui, se convertit progressivement aux techniques de la classe inversée? Alors je rappelle pour nos auditeurs que dans la classe inversée, les élèves visionnent le cours enregistré par leur professeur le soir, chez eux, au lieu de faire leurs devoirs comme avant, et le temps passé en classe est consacré à interagir, travailler en groupe, contrôler l'assimilation des connaissances, bref, faire ses devoirs ensemble. Et Kenneth Rogoff, célèbre professeur, avait une réponse bien huilée à la question qu'il posait lui-même. Si les cours magistraux étaient dispensés sous forme de vidéo, eh bien une poignée de professeurs très fameux se partagerait le marché au détriment de tous les autres. On connaît la loi de « the winner takes all ». Elle s'applique dans le sport comme dans le show business. Quelques rares gagnants raflent la mise et derrière eux, tous les autres se partagent des miettes. Mais après tout, faisait remarquer Rogoff, c'est déjà le cas sur le marché des manuels d'enseignement. Dans chaque discipline, une dizaine de professeurs dominent le marché. Soyons lucides, ajoutait-il, le corps universitaire ne souhaite pas davantage que les autres professions, voire la technologie, mettre à mal les emplois dans son domaine. Et, à la différence des métiers manuels, les professeurs d'université, eux, exercent un pouvoir considérable sur l'administration. Mais Rogoff prévenait aussi, c'est reculer pour mieux sauter, un changement aura lieu tôt ou tard.
Eh bien Brice, il se peut qu'il se soit trompé.
Eh oui, car à l'heure des premiers bilans, les MOOCs en question, ces cours massifs en ligne, apparaissent assez décevant. Certes, selon ICEF, l'un des principaux cabinets de conseil en éducation supérieure basé à Bonn, il y aurait eu dans le monde, tenez-vous bien, 100 millions d'inscriptions à ces cours en ligne en 2018. Mais selon The Inside Higher Ed, qui est basé lui à Washington, seuls 3% des étudiants inscrits à des MOOCs vont jusqu'au bout de leur cycle universitaire. Et plus inquiétant encore, le nombre d'étudiants inscrits à un cycle qui ne se réinscrivent pas l'année suivante n'a cessé d'augmenter. On ne peut donc pas considérer que la tendance soit favorable, c'est le contraire. Mais le plus attristant dans cette affaire, c'est que les espoirs placés dans la capacité des cours en ligne à aider les pays en développement à combler leur retard en fournissant compétences et diplômes, ces espoirs ont été déçus. Car ce sont les étudiants des pays développés qui ont été les principaux utilisateurs des MOOCs. Ils s'en sont servis pour compléter les enseignements qu'ils recevaient dans leurs universités. Dans la lettre confidentielle en français FEBE, on trouve une analyse d'un article important sur ce sujet qui est paru dans la fameuse revue Science. On y apprend que 52% des étudiants inscrits dans un MOOC n'ont suivi aucun cours du tout. L'auteur de cet article, Pedro de Bruyquière, explique cette désillusion par ce qu'on appelle le cycle du hype. Hype pour hypermédiatisation. Après le lancement d'une technologie disruptive, phase 1, vient le temps des attentes exagérées, phase 2. Les nouveaux services ne répondant pas exactement aux attentes survient généralement 2 ans plus tard, le temps de la désillusion, phase 3. Mais si cette technologie nouvelle ne disparaît pas, peut apparaître ce qu'on appelle la pente de l'illumination, qui est la phase 4, qui va inciter des entreprises à redécouvrir certains avantages mal perçus au départ de la technologie en question. Et la phase 5 correspond au développement d'un produit ou d'un service de grande consommation appelé plateau de productivité. Manifestement, les plateformes de MOOCs misent aujourd'hui sur un tel scénario, mais prévient Kenneth Rogoff, toujours lui, cela passera par une remise en cause de la technologie elle-même. Visionner des cours magistraux, même prononcés par les meilleurs professeurs du monde, n'attirera jamais des millions de personnes. Il faut donc réinventer les manières d'enseigner afin de les rendre compatibles avec ces nouvelles technologies. Et c'est là qu'est le défi des MOOCs. William Patrick Leonard, du think tank Rio Grande Foundation, a tout récemment fait, à cet égard, des propositions stimulantes. Les animateurs, écrit-il, ne doivent pas se comporter comme des professeurs, mais comme des instructeurs. Et en ligne, l'environnement n'est pas celui de la classe. En outre, il ne faut jamais perdre de vue la question des décalages horaires.